C'est vrai qu'on a une chance assez folle. C'est la première fois qu'on fait une exposition sur la bande dessinée à l'Arsolite et ça nous tenait vraiment à cœur parce que c'est peut-être le médium, un des médiums qui exprime le plus ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire la rencontre entre les arts qui peuvent aller de l'art pariétal jusqu'à l'art contemporain et la rencontre avec la pop culture, c'est-à-dire les arts du divertissement. Donc ça peut être le jeu vidéo, ça peut être la musique pop, ça peut être les films, les séries et bien sûr les bandes dessinées. Donc la bande dessinée puise à la fois dans les arts et dans le divertissement et fait la fusion entre les deux. Et je crois que l'expo qui est là, qui va être présentée, que vous allez découvrir, eh ben c'est un bel exemple de ça. C'est une belle fusion. C'est-à-dire un monsieur, Yann Vita, un artiste qui puise dans l'art académique, dans les beaux-arts, et puis qui transpose son travail du Royan-Vercors, de la Résistance, de la quête initiatique, du passage de l'adolescence à l'âge adulte. Il le transpose dans un monde médiéval fantastique, donc du divertissement. Ça appelle Le Seigneur des Anneaux, ça appelle La quête de l'oiseau du temps de Régis Loisel ou plein d'autres références qu'on peut avoir. Et c'est une découverte sensationnelle, quoi.
C'est une proposition qui parle facilement à tous les âges?
Ah oui, c'est comme toutes les expos à l'Arsonite, on est capable de faire passer les crèches dans les expos jusqu'aux personnes qui sont en maison de retraite ou ainsi de suite. C'est abordable et accessible pour tout le monde, même si on a l'impression que les expos, c'est pas pour nous. En fait, ça vaut le coup quand même de revenir voir et puis de se rendre compte qu'en fait, c'est pour tout le monde. Donc ça, là, on a vraiment de chance. Et on l'a découvert grâce à quelque chose de tout simple. Il nous a envoyé une invitation pour son exposition à Chabadar, à Chabeuil. Puis c'est comme ça qu'on l'a rencontré.
D'accord. Il ne reste plus qu'à rejoindre l'Arsolite. Donc l'exposition, jusque quelle période on peut la visiter?
Eh bien, de tout de suite maintenant, du mercredi au dimanche, comme on est ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 18h, voilà, on est ouvert, et jusqu'au dimanche 29 mars 2026.
Bonjour Yann Vita.
Bonjour.
Vernissage aujourd'hui, en ce samedi 25 octobre, vous emmenez par cette exposition que vous présentez à l'Arsolite, le voyageur, le visiteur, j'allais dire voyageur, mais c'est un mot qui n'est pas mineur pour dire toute l'immersion que vous proposez au public à travers cette médiévale fantasy, avec un travail au long cours dont nous allons reparler dans quelques instants, mais quand on évoque votre nom, peut-être que ça va parler aussi à des oreilles du Royan, puisque vous avez vécu sur le Royan il y a quelques temps et aussi œuvré pour les propositions de l'univers artistique, n'est-ce pas ?
Oui, en fait, j'ai habité donc dans le Royan pendant une dizaine d'années sur Auriol. Et c'est vrai qu'à cette époque, j'ai rencontré d'autres artistes du Royan et on s'était dit que ce serait peut-être sympa de se fédérer et puis de travailler ensemble. Et c'est à cette époque qu'on a fondé avec d'autres artistes l'Art de Rien, les ateliers de l'Art de Rien, avec le soutien de la mairie de l'époque. Voilà, et qu'on a organisé du coup tout un tas d'ateliers, d'expositions sur Saint-Jean. Et donc c'était une belle aventure. En fait, la BD, c'est un petit peu une longue histoire, puisqu'elle a commencé dans les années 2009, suite un petit peu à mon imprégnation en fait, de la région, de sa géographie et de son histoire. Donc cette BD, ça raconte l'histoire d'un personnage qui est en quête de ses origines et qui part à la découverte de sa sœur qui était disparue. Et donc il va descendre du Vercors, que j'ai imagé de manière différente à ce qu'est le Vercors réel, donc un Vercors suspendu dans mon univers. Et ce personnage donc part à la recherche de sa sœur et descend en fait dans la région du Royan, où là il va être confronté à l'adversité, au combat, et donc aussi il va aussi construire son identité d'homme, puisque c'est un jeune homme.
Alors pour représenter ce Vercors dans cette quête initiatique, certaines représentations, vous avez aussi imaginé le Vercors dans cet univers de médiéval fantasy. Alors qu'est-ce que vous avez voulu faire ressortir? Qu'est-ce qui s'est conjugué avec votre travail?
C'est vrai que le médiéval fantasy permet d'éliminer toute la modernité. Moi, la modernité, c'est pas ma tasse de thé. Je me vois pas représenter des vélos, des voitures, des cheminées, des machines. Et c'est vrai que ce qui m'intéresse dans l'époque médiévale, c'est justement que la nature, elle est un petit peu plus à l'état brut. gêné par des formes modernes. Et donc, on est dans un environnement beaucoup plus sauvage, beaucoup plus à l'accueil d'une aventure extraordinaire. Et puis, c'est vrai que c'est une période qui fait un petit peu plus travailler l'imaginaire, la créativité, d'un point de vue de ma sensibilité. Je suis fan de l'univers de fantasy en général, mais en particulier l'univers de Tolkien. Donc forcément, ça fait aussi partie de moi. Et donc, ce sont des univers qui se mélangent. Un univers réel, avec une géographie réelle, une histoire réelle, celle de la résistance en Vercors, et en même temps, des influences qui sont les miennes, c'est-à-dire la fantasy. Moi, je suis un gros lecteur de fantasy, donc... Tout ceci, ça se mélange et donne cette histoire.
Des paysages monochromes, quand on commence déjà à percevoir le début de votre travail, beaucoup de verticalité, des grands formats, hein, c'est assez impressionnant. Pourtant, après, pour se retrouver dans des petits carrés, mais ça commence par des grandes choses, c'est étonnant.
Oui, alors en fait, le rapport au grand format n'est pas du tout le même que le rapport à l'illustration en bande dessinée, où on est dans un travail beaucoup plus intime, où en fait on ne fait marcher finalement que son poignet, enfin sa tête et son poignet bien sûr, alors que dans le grand format, il y a un engagement beaucoup plus corporel, beaucoup plus physique, plus fort. Et c'est sûr que pour représenter des paysages justement dont vous parliez, c'est-à-dire des paysages qui ont beaucoup de force, eh bien effectivement le grand format est vraiment adapté à ça. Ensuite, c'est vrai que le petit format... Donc la BD, bon, quand je dis petit format, c'est quand même du format A3 souvent. On a un autre rapport, mais le crayonné peut être aussi riche en petit qu'en grand. Mais moi, j'ai besoin d'alternance pour oxygéner mon travail en petit. J'ai besoin de travailler en grand. Et ça, c'est vraiment important pour moi de faire des sortes de pauses, de me dire, bon voilà, là j'ai fait suffisamment de pages à 3, je vais changer d'air, m'attaquer à du grand format pour pouvoir mieux revenir au petit format.
Ça fait respirer aussi quelque part.
C'est ça, c'est exactement ça.
Alors cette exposition, elle nous mène dans votre processus de création, hein, du début jusqu'à la fin, et répartie sur, on pourrait dire, trois secteurs majeurs.
La géographie, l'histoire, la résistance, ça c'est vraiment trois axes majeurs dans mon travail. Donc après, il y a aussi l'histoire de la quête initiatique, c'est-à-dire que c'est un personnage qui est assez jeune et qui va donc aussi en quête de ses origines, puisqu'il doit retrouver sa sœur qu'il pensait disparue. Donc c'est toute son histoire, toute sa formation, tous les événements qui vont le construire, construire son identité. Ça fait partie, du coup, ça fait presque quatre axes. Moi, je dirais vraiment, ce qui est important pour moi, c'est l'influence du Vercors en tant que tel, c'est-à-dire avec sa géographie, avec ses paysages, avec sa verticalité, mais aussi ses sous-bois, la richesse de ses paysages, mais qu'on retrouve aussi dans le Royan, avec toute la présence de l'eau, les cascades, tout ça, c'est vraiment, ça habite mon histoire. Et puis, il y a aussi cette histoire, l'histoire réelle du Vercors pendant la guerre, donc, et de ses résistants. Il y a aussi vraiment cet hommage à la résistance contre un oppresseur. Donc, mon histoire, c'est un peu comme toutes les grandes histoires. Les histoires de résistance sont vraiment des histoires qu'on retrouve dans toute notre culture depuis tout le temps. Quand on pense, par exemple, à la guerre des étoiles ou à Avatar, c'est vraiment des histoires de résistants. Mon histoire est une histoire de résistants aussi. Et je pense qu'on a toujours à résister contre une oppression. Après, on n'a pas tous le même ressenti par rapport à ça, mais en tout cas, donc moi ça fait vraiment... Donc l'histoire du Vercors m'a beaucoup touché, le récit des résistants, mais aussi j'ai été vraiment bouleversé quand j'ai visité le mémorial de la résistance à Vassieux. Donc c'est tout des choses qui ont construit mon récit et qui ont vraiment leur importance. Et puis aussi je pense que comme dans toute histoire, il me semble qu'on parle beaucoup de soi aussi quand on écrit quelque chose, en fait. C'est malgré soi, on parle beaucoup de soi. Souvent, quand on fait un retour sur une analyse, finalement, on se rend compte combien il y a beaucoup d'éléments biographiques, en fait, qui ressortent. Et malgré soi, parce que ça, c'est... Enfin, je veux dire... Mais c'est vrai que je pense que tous les auteurs, on est un petit peu pareil.
Et là, vous avez été épaulé pour le scénario, l'écriture ou...
Alors non, parce qu'en fait, c'est un travail tellement... qui a pris son temps, qui s'est installé. J'ai vraiment travaillé tout seul. Mais aujourd'hui, je me rends compte quand même que j'ai quand même besoin... Moi, je ne suis pas un écrivain, je ne suis pas un littéraire. Et c'est clair qu'à un moment, j'ai besoin de quelqu'un qui sache écrire. Et l'écriture en bande dessinée est vraiment particulière aussi. C'est un domaine particulier. Donc là aussi, il faut quelqu'un qui ait cette sensibilité et cette culture-là. Pour l'instant, moi, je sais que je ne pourrais pas le faire. Je sais exactement ce que se disent les personnages. C'est déjà intégré dans la bande dessinée. Par contre, pour trouver les formules, pour trouver le bon texte, les bonnes paroles, là, il faut vraiment une capacité particulière que je reconnais que je n'ai pas du tout.
Et puis placer aussi dans l'image, puisqu'il y a votre représentation graphique. Et puis, il faut caser ça. Il faut aussi peut-être anticiper quand vous dessinez.
Oui, voilà. Ça, c'est déjà dans le projet de départ quand on construit, quand on compose une page en bande dessinée avec ses cases. Donc, l'espace pour la bulle et le dialogue est nécessairement prévu. Voilà. Donc, ça, c'est prévu. Mais ce qui n'est pas prévu, c'est plutôt l'écriture elle-même, c'est-à-dire la formule elle-même. Quoi. Mais sinon, les textes ont leur espace prévu à l'avance, bien sûr.
Ça demande de beaucoup synthétiser, j'imagine, les textes.
Oui, je pense qu'il faut synthétiser et surtout être naturel dans le phrasé pour que ça ne paraisse pas artificiel. Ouais. Enfin, voilà, c'est vraiment du naturel pour qu'on lise ça comme si vraiment on était avec les personnages, dans la scène et naturel. C'est vraiment...
Alors là, on progresse au fil des tableaux avec des noirs et blancs, là, tout ce qui compose le coloriage, on peut dire le remplissage.
Oui, la colorisation, il y a plusieurs mots. Après, en fait, ce qu'on peut voir dans l'exposition, il y a une frise sur laquelle les pages sont installées et on a parfois, pour certaines pages, les étapes qui ont permis d'aboutir à la page finie, c'est-à-dire une page avec de la couleur et du texte. Donc toutes ces étapes, c'est à la fois les brouillons, ce qu'on appelle la ligne claire, un dessin qui est totalement dépouillé de son hachurage, de ses ombres et de ses lumières. Ensuite, on a un passage par la couleur ou par le hachurage, donc ombre et lumière. Donc, on a vraiment toutes ces étapes. On a mis ça parce qu'effectivement, souvent, les lecteurs de BD ne se rendent pas compte. La BD, c'est peut-être un art qu'on néglige un peu. On se dit, oui, c'est un petit peu pour les enfants. C'est un petit peu... c'est un art second, on va dire. Et en fait, quand on rentre un petit peu dans la construction, la fabrication d'une BD, on se rend compte que c'est un travail énorme, qu'il faut gérer énormément de choses, autant l'expression des personnages, le caractère des personnages, mais aussi le rythme dans une page, les cadrages. C'est vraiment un travail de cinéaste.
J'allais dire, le 9e art, la BD n'est pas en reste du 7e art.
Hein. C'est vraiment des arts qui sont assez proches, avec des petites différences, mais quand même, malgré tout, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'une bande dessinée, souvent, dans un film, on voit un générique avec tous les métiers qui ont, et donc le nom de toutes les personnes qui ont participé et tous leurs métiers. Et ben en fait, dans une BD, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que il y a tous les métiers qui sont résumés dans le générique d'un film. Et ben tous ces métiers-là sont présents dans le travail de la bande dessinée en fait. Sauf que souvent, c'est réalisé par une personne. Alors, ce qui est extraordinaire, des fois, c'est une personne qui gère tout. La plupart du temps, il y a quand même un scénariste, un dessinateur et un coloriste, donc souvent il y a un travail à trois ou quatre personnes. Quoi.
Donc là, vous avez dû chausser plusieurs casquettes.
J'ai chaussé plusieurs casquettes et en même temps, je me rends compte de mes limites. Et c'est vrai que j'aimerais vraiment travailler avec des personnes qui ont des compétences qui puissent s'ajouter aux miennes, en restant moi peut-être plus sur la partie dessin et en travaillant avec des personnes qui seraient plus chargées du texte et de la couleur.
Alors, de nombreux cadres, tableaux, des noirs et blancs, des dessins préparatoires, d'autres plus aboutis. Enfin, c'est vraiment au fil de la progression de ce livre, Les Sentinelles de l'Aurore, et on arrive en point d'or, et un peu de l'exposition de votre atelier qui a été reconstitué pour l'occasion.
Oui, c'était aussi pour montrer quelles sont mes influences. Donc, on a profité de l'espace pour créer un bureau sur lequel j'aurais pu travailler, mmh. avec voilà, des croquis balancés, quelques cartes, et puis aussi des influences pêle-mêle qui mmh. sont sur une étagère, donc avec des livres, une carte topographique, des figurines voilà, dont je me sers pour, voilà, pour croquer, par exemple, des chevaux ou autre animal. Il y a aussi une sculpture qui est posé sur un plan là-bas qui représente mon personnage principal, que souvent je dessine pour que ce soit moins difficile à imaginer. Bah, j'ai vraiment son portrait en volume devant moi que j'ai réalisé en terre cuite.
Voilà. Et puis bien sûr, les gens reconnaîtront un des aspects du Vercors que vous avez transposé dans le livre et que vous avez aussi imaginé d'autres perspectives.
Oui, hein. oui c'est, en fait, c'est vraiment des sites du Vercors qui sont un petit peu, on va dire, transfigurés dans un monde un peu fantastique. Par exemple, là, on est en face d'une illustration qui nous montre la cascade blanche, mais on a aussi une vue de Pont-en-Royan en contre-plongée sous le pont, ou une vue en plongée. Voilà, on a la route des Grands Goulets, un petit peu médiévalisée, je ne sais pas si ça se dit. Voilà, on a le plateau de Fondurle, donc tout le monde reconnaîtra un endroit qui lui est cher.
Alors, cette bande dessinée, où en est-on dans son processus d'élaboration, Les Sentinelles de l'Aurore ?
Oui, alors, tout le crayonné du premier album est presque finalisé. Là, les étapes, ce sera vraiment l'écriture des bulles. Et puis, la colorisation, qui reste encore à faire. Et ensuite, aussi, trouver un éditeur.
On peut espérer qu'elle sorte dans... Vous avez une idée ?
L'idée, ce serait que dans un an, je puisse vous donner à nouveau rendez-vous pour venir dessiner sur les albums que vous pourrez vous procurer.
Eh bien, merci beaucoup, Yann Vita.
Merci et à bientôt.
À bientôt.